« Je devais écrire sur le pouvoir, la gloire et la célébrité. » À l'époque, Sinatra était la plus grande star vivante. Et on ne se parle pas. Il ne me parle pas. Je ne cherche pas à lui parler. Je n'en ai pas besoin. Grâce à ma méthode d'écriture, qui m'a été inspirée par la lecture de Maupassant quand j'étais petit, je peux écrire sur les petites gens qui entourent les grands, de leur point de vue, ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent.
La lettre s'est immiscée entre une facture EDF et un énième rappel pour s'abonner à une plateforme. À l'intérieur, des bouts de papier précieux, pas pour leur rareté, mais pour ce qui est écrit dessus. Un récit long et précis sur l'île de Socotra et ses arbres légendaires, les dragonniers, une espèce en voie de disparition. Une histoire vraie, écrite par un jeune journaliste qui offre, par ses mots, un sujet à mi-chemin entre le reportage classique et la nouvelle littéraire. Le genre n'est pas nouveau, ni en France ni aux États-Unis, terre de ce que l'on a défini comme le nouveau journalisme. Ce qui est nouveau en revanche, c'est la diffusion de ce reportage. Un courrier, donc, atterrissant dans nos boîtes aux lettres, et ce sera le 4 ou les 15 jours pour d'autres histoires évidemment. Un projet fou, lancé par deux journalistes trentenaires qui croient encore au papier et à la poste. Ce média épistolaire d'un nouveau genre s'appelle La Disparition. Et contrairement à l'œuvre de Georges Perec, il contient toutes les consonnes et les voyelles de notre alphabet, voire un peu plus, un goût certain pour la curiosité, un autre regard sur le monde et sur les autres.
L'instant M. Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. En ce mardi 28 décembre, nous sommes en direct sur France Inter avec deux invités, Annabelle Perrin et François de Monins. Merci de nous avoir rejoints tous les deux. Bonjour.
Bonjour. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation qui était super.
Vous arrivez de Marseille où vous vivez, vous êtes journaliste et créateur donc de La Disparition, un nouveau média épistolaire. Alors on va essayer de comprendre comment est née cette idée, comment est né ce projet. Mais vous, vous venez d'où? Vous avez débuté votre carrière dans quel genre de média, Annabelle Perrin?
Je suis sortie de l'école de journalisme il y a 3 ans. J'ai été journaliste indépendante, principalement pour un média qui s'appelait Le Doc, qui était un média d'investigation à Montpellier.
Et François de Monins?
Et moi, je suis passé par Ouest France, où j'étais en alternance pendant mon école. Et puis après, pareil, j'ai pigé à droite, à gauche, pour différents médias, le Doc notamment.
Et alors, vous êtes d'étranges créatures médiatiques. Je ne peux pas le dire autrement. Parce qu'à l'heure où tout le monde parle de numérique, de newsletter, de format ultra court, vous avez choisi un modèle totalement différent. Alors, lequel d'entre vous peut nous expliquer ce qu'est La Disparition? Annabelle.
La Disparition, donc c'est un média épistolaire et politique qui a pour but de chroniquer les disparitions en cours dans notre monde. Et alors comment on le fait? On envoie des lettres, comme vous l'avez dit, à nos abonnés. Tous les 15 jours, nos abonnés reçoivent dans leur boîte aux lettres une enveloppe avec à l'intérieur un long récit qui chronique une disparition. Alors ça peut être la disparition d'un quartier, la disparition d'un arbre, la disparition d'un métier ou d'un service public. Et à l'intérieur également, il y a une carte postale qui illustre ce récit. Un strip de BD qui fait écho à ce qu'on raconte, un nota bene où on contextualise un petit peu le sujet et une grille de mots croisés un peu folle.
On va en parler des mots croisés, hein, de cette grille un peu folle. François de Monins, comment elle est née cette idée? Pourquoi aujourd'hui lancer ce nouveau média?
Cette idée, elle est née pendant le premier confinement, où en fait, avec Annabelle, on a été assez perturbés de voir comment des choses qu'on pensait complètement immuables pouvaient disparaître comme ça du jour au lendemain. On a pensé évidemment à la capacité de se déplacer librement qui nous a été supprimée sûrement à raison. Mais voilà, cette disparition ou d'enterrer nos proches, de liberté qu'on pensait inscrite dans le marbre, ça nous a interpellés. Et puis on s'est dit, on a réfléchi à cette idée de choses qui disparaissent. Et on s'est dit que finalement, on pouvait interpréter et analyser notre quotidien et le monde à travers ce prisme de la disparition, les services publics qui disparaissent, Annabelle vient de le citer. Évidemment, on pense à tous les sujets concernant la biodiversité. Donc, plus on creusait, plus on s'apercevait qu'il y avait matière à faire quelque chose autour de ce thème-là.
Que tout se cristallisait autour de ce mot disparition. Alors en l'occurrence, vous ne croyez pas à la disparition ni du papier, ni du réseau de la poste, on est bien d'accord.
On espère.
Ah, vous espérez. Non oui. Mais c'est vrai, vous arrivez à un moment
quand même où on se pose beaucoup de questions sur les médias papier, en l'occurrence, où on sent qu'il y a une fragilité économique. Ça ne vous a pas fait peur? Vous vous dites, nous, on a envie de faire ça et on a envie de retrouver l'idée du courrier dans la boîte aux lettres.
Bien au contraire, en fait. Quand on a eu l'idée de la disparition, quand on savait qu'on voulait parler de disparition, les inventorier, donc on s'est demandé comment. Alors, tout bêtement, parce qu'on a 30 ans, vous l'avez dit, on s'est dit qu'on allait faire un site internet. Et puis, très vite, on s'est dit, mais qui peut avoir envie d'aller sur un site internet et de lire des histoires de disparition? C'est bizarre, à l'heure où le papier disparaît, faire un site internet, c'était antinomique. Alors après, évidemment, on s'est dit, on va faire une revue. Mais la revue, avec peu de moyens, sans grande maison d'édition derrière, c'était impossible. Et puis un jour, comme ça, je ne sais même plus quand, ouais, autour d'un café, un matin, on s'est dit, mais c'est la correspondance qui disparaît. En fait, on ne s'écrit plus ou plus beaucoup. Et voilà, on s'est dit que peut-être ça allait être finalement plus facile.
Une des solutions.
Oui, une des solutions.
Oui, parce que vous êtes hors du réseau qui est quand même très compliqué de la distribution grâce à ce courrier qui nous arrive dans les boîtes aux lettres. Est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que vous avez une défiance à l'égard des médias dits classiques, François de Monins, pour vous lancer dans ce type de récit?
Non, on n'a pas de défiance à proprement parler. En tout cas, on a essayé de faire un média qu'on prendrait plaisir à lire et qu'on aimerait recevoir. Et surtout, on a essayé d'inventer modestement et humblement un autre rapport avec le lectorat, entre un média et son lectorat, quelque chose de peut-être plus direct et de plus intime, puisqu'on le reçoit chez soi dans la boîte aux lettres, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, effectivement, et on invite nos lecteurs, nos lectrices à nous répondre. Donc voilà, c'était plutôt dans ce sens-là.
Je pense quand même qu'il faut préciser que on peut faire du récit à la première personne, écrit au jeu, plus intime, comme dit François, ce qui n'empêche en rien l'enquête de terrain, le reportage et de produire quelque chose de très politique. En
oui,
fait,
hein. On va y revenir. On va y revenir dans la façon dont vous parlez au lecteur, au singulier et pas forcément au pluriel. Juste un petit mot sur la fameuse grille de mots croisés. Ça peut paraître anecdotique, mais donc il y a une grille de mots croisés qui est dans notre courrier. Ça vise généralement un public en particulier. Alors pour le dire vite, souvent des gens plutôt cultivés, mais vous, à qui vous vous adressez? C'est qui votre public? Vous l'avez déjà défini? Vous avez une idée de qui
alors,
il pourrait être?
On a, c'est des choses, c'est assez amusant comme question, parce que au début, on fantasme beaucoup un public. On se dit, oui, les gens qui vont nous lire, ça va être telle personne, telle. Et puis, en fait, on a donc mené une campagne de financement participatif et du coup, on a vu à qui on s'adressait, ouais, finalement. Et je dois dire que c'est plutôt très large. Il y a tout autant des étudiants voilà, de 20, 22, 23 ans que des personnes de 50 ans ou des retraités. Donc finalement, on pensait s'adresser, nous, plutôt à des trentenaires un peu de notre âge, peut-être aussi qui n'ont pas vraiment connu les correspondances et donc qui aimeraient découvrir ça, et des personnes plus âgées qui, elles, se sont écrites des lettres quand elles étaient plus jeunes. Voilà. Et bon, finalement, on trouve que...
C'est plutôt bon signe, alors. Bon signe d'avoir un public le plus large possible.
On espère, ouais.
Ouais. D'ailleurs, vous parlez de ce financement participatif. Combien, au total, vous avez eu de contributeurs? Et surtout, à partir de combien d'abonnés votre projet est viable, Annabelle?
800 personnes environ se sont abonnées. Disons qu'on peut vivre... avec 1200 abonnés.
D'accord.
En se payant très très modestement.
D'accord. Donc encore un petit coup de boost, hein, pour utiliser d'un anglicisme.
Merci.
Pour faire vivre le projet. Alors pour ce premier numéro, et je pense que ça pourra peut-être attirer des gens vers votre média, vous nous emmenez dans une petite île au large du Yémen, Socotra, qui est connue pour ses arbres légendaires, les dragonniers, qui est une espèce en voie de disparition.
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Socotra abrite de nombreuses espèces uniques, à l'image de son arbre iconique, le dragonnier.
Alors c'était juste l'extrait d'un reportage de Renews sur la faune et la flore de cette île, qui est donc le sujet du récit de Quentin Muller, qui est le premier auteur de la disparition. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? François, Annabelle, Annabelle Perrin.
Je trouve que pour un premier sujet, Quentin arrive à faire un travail qui est assez plaisant à lire parce que en fait il nous raconte, il dévoile qu'il a développé une espèce d'obsession pour cette île, pour Socotra, et c'est difficile de s'y rendre quand on est au Yémen, et donc il explique ses multiples tentatives avortées, et c'est vraiment un récit d'aventure, et je trouve que ça se mêlait parfaitement au fait de raconter la disparition de cet arbre menacé, comme vous l'avez dit, à cause du réchauffement climatique et des transhumances qui ne se font plus de la même manière.
Alors, il débute ce récit par une formule qu'on va retrouver à chaque numéro de la disparition, à toi qui me lis. Et il s'adresse au lecteur en utilisant la première personne du singulier. Donc, j'ai cru comprendre que c'était une règle que vous imposiez pour chaque récit. Est-ce que le tutoiement, c'est un marqueur social pour vous, une façon de dire, eh bien, on est un peu branché et on est là avec vous, François?
Un marqueur social, je sais pas. En tout cas, c'était l'idée de pousser la logique de la lettre jusqu'au bout. C'est vrai que en général, on reçoit des lettres de personnes qu'on connaît, et donc un vouvoiement serait assez étrange. Et voilà, c'est toujours dans la logique de que le lecteur se sente investi dans le récit et qu'il reçoive un texte d'une autrice, d'un auteur qui lui raconte des nouvelles du front d'une disparition. Donc, on trouvait que cette adresse directe au lecteur, ça marchait assez bien pour créer justement ce lien et pas faire factice, quoi, parce que notre idée, c'est pas de faire un reportage sous forme de lettre, mais vraiment d'écrire une lettre.
Alors, moi, ça m'a rappelé un autre média, parce qu'en fait, au gré des mots, on a quand même l'impression que l'auteur nous chuchote à l'oreille, nous raconte son histoire comme s'il était en train de raconter à des enfants le soir au bord du lit. Et pour moi, ça me rappelle quand même le principe d'un autre média, qui est le podcast, qui est en pleine expansion. Est-ce que vous êtes des gros consommateurs de podcasts? Est-ce que c'est un média qui vous a inspiré pour créer La Disparition?
Assez peu, non.
C'est vrai?
Oui, assez peu. J'ai rencontré les deux cofondateurs, enfin, de Néon, oui. Le magazine Néon, qui eux aussi utilisent le jeu. Et je me suis rendu compte que je l'ignorais. Donc finalement, je suis, en tout cas moi personnellement, je ne consomme pas.
Vous n'êtes pas sensible à ça?
Pas vraiment, non.
Et François de Monins?
Pas tellement non
plus. Pas tellement non plus, hein. C'est marrant.
Si, il y a quelques podcasts que j'écoute régulièrement qui me plaisent assez. Je pense à Transfert, qui est aussi quelque chose, oui. Pour le coup, qui est assez intime, qui sont des histoires
du témoignage, très personnel,
du témoignage, mais je suis pas un si grand consommateur de podcasts.
En fait, ce qui est drôle, c'est que bien au contraire, par exemple, on a fait une lettre zéro aussi, écrite par Julien Brigaud, qui racontait la disparition du métier de chauffeur routier aux États-Unis. Et en fait, j'avais lu ce sujet dans Le Monde diplomatique, et au contraire, je me suis dit c'était très intéressant, mais aussi un peu ardu et un peu froid. Oui. Et je me dis, ça serait bien s'il pouvait le raconter au jeu sur place, si on pouvait le vivre, quoi.
Ouais, et c'est vrai qu'on est embarqué sur cette petite île de Socotra. Alors, on a parlé de ce mot de disparition qui est un peu anxiogène quand on en parle comme ça. Est-ce qu'il y a des disparitions souhaitées et souhaitables dont vous allez parler dans La Disparition?
Ouais, c'est un grand enjeu de La Disparition, de pas être plombant,
oui.
Et de pas être anxiogène. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement des disparitions regrettables et peut-être dramatiques par moment. Même ces disparitions-là, on essaye toujours de les raconter de manière déjà vivante et surtout de raconter des gens qui luttent, qui sont debout. On pense notamment à un sujet de Sophie Bouillon, qui raconte la disparition de l'espace à Lagos, au Nigeria, qui est une ville qui est tentaculaire, où il n'y a plus d'espace pour les arbres. Donc ça pourrait paraître, bon voilà, évidemment, la nature disparaît, c'est affreux. Et elle nous raconte l'histoire de quelqu'un qui, pour sa femme, pour l'amour de sa femme qui est décédée, possède un sanctuaire d'arbres dans Lagos, qui pourrait vendre à millions de dollars, et qui conserve cet espace-là. Et donc finalement, ce sujet qui pourrait paraître anxiogène ne l'est pas du tout, parce que on raconte l'histoire de cet homme-là. Et à côté de ça, effectivement, on va raconter des disparitions souhaitables,
oui.
Notamment par exemple la disparition de la maladie du sommeil, qui est en train d'être éradiquée
en Afrique, notamment.
Exactement.
Ouais.
Donc voilà, on essaye de ne pas être déprimant, et j'espère que J'espère
qu'on y arrive. Je confirme en tout cas à la lecture de notre dragonnier sur cette île de Socotra. On y est parce que notamment l'auteur joue avec tous nos sens et donc on est embarqué aussi dans une histoire, un grand voyage, une grande aventure qui nous donne aussi envie d'aller voir ailleurs. Une chose est certaine en tout cas, ce récit, il entre dans la catégorie de ce qu'on appelle le nouveau journalisme. Alors en France, il y a des grands noms qui illustrent ce genre-là. Je pense à Joseph Kessel, à Florence Omnas, Emmanuel Carrère ou encore Yvan Jablonka. C'est une enquête, c'est un récit qui demande du temps, qui se révèle précis, ambitieux dans sa façon de raconter notre société. Et aux États-Unis, ce mouvement existe depuis des années, notamment depuis les années 60. On entendait en introduction de cette émission Get Alice. Je vous propose d'écouter un autre maître en la matière, Tom Wolfe. En 2016, il recevait chez lui à New York François Bunel.
Les gens ont plus de facilité à lire les dialogues que toute autre chose. Ils donnent l'impression que tout est réel et intime. Il y a deux autres techniques que l'on peut utiliser. La première, c'est de construire l'histoire scène par scène. La deuxième, c'est le monologue intérieur, le dialogue interne, où il y a quelqu'un qui réfléchit au cœur d'une situation. Je suis convaincu que si on reste assez longtemps en compagnie d'une personne et qu'on s'attache à elle, alors ça peut marcher. Aujourd'hui encore, ça ne fait pas l'unanimité. Mais moi, je trouve ça super.
Annabelle Perrin, François de Monin, est-ce que vous avez l'impression de vous inscrire dans ce mouvement de ce qu'on a appelé le nouveau journalisme ?
Moi, je me méfie toujours des étiquettes. Et puis, je trouve qu'il faut rester modeste et dire qu'on fait du nouveau journalisme. Beaucoup l'ont dit. Et puis, finalement, on est toujours un peu déçus. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement d'incarner le récit. Alors, je pense à un ouvrage dont j'ai oublié le nom, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, publié aux éditions du Sous-Sol, qui racontait en fait ce qu'on appelle le nouveau journalisme. Et c'était super intéressant parce que il disait dans l'introduction que finalement, on cite Tom Wolfe, Guy Talisi, etc., mais eux s'intéressaient aux puissants. Et en fait, est venu plus tard un nouveau journalisme qui, eux, s'intéressait aux gens très, 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 très précaires. Et donc, s'il fallait trouver une filiation, j'ose espérer qu'on serait plutôt du nouveau journalisme. Mais vous m'avez forcé à le dire.
Dans la tradition française, mais en tout cas, on vous intéressant à tout le monde, parce que le contexte politique de vos récits est extrêmement important, on le voit avec cette île de Socotra, il y a un contexte historique aussi, qui est nécessaire pour comprendre les enjeux. Est-ce que c'est un cadre que vous allez donner à tous les auteurs de la disparition, François de Monin ?
Alors,
il faut qu'il y ait cette dimension à la fois politique et historique.
Ouais, alors historique, ça dépendra des sujets parce
bien
que parfois c'est beaucoup plus ancré dans le réel. On pense par exemple à la lettre numéro 2 qui analyse la disparition au prisme de l'exil, qui est écrite depuis Mayotte et qui raconte le quotidien de demandeurs d'asile sur un rond-point de Mamoudzou à Mayotte. Alors effectivement, là se mêle l'histoire de ces gens, l'histoire de leur pays, pourquoi ils ont fui et pourquoi ils se retrouvent là, mais aussi, encore une fois, l'intime, les joies, les espoirs, les déceptions de ces gens-là.
Et les rêves,
effectivement. Bon, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Après, on aura des lettres, puisqu'on a aussi des fictions, on aura aussi des lettres totalement décorrélées de toute réalité matériel.
Ce sera un autre genre
voilà,
à découvrir. Donc, dans notre enveloppe, Annabelle Perrin, elle est déjà épuisée de ce projet qui ne fait que commencer. Le premier courrier va arriver dans les boîtes aux lettres des abonnés dans quelques jours et ce sera une lettre tous les 15 jours. Merci infiniment à tous les deux d'être venus depuis Marseille ce matin. Toutes les informations sur la disparition sont à retrouver sur la page de l'Instant M et sur le site ladisparition.fr. Dans un instant, vous allez retrouver Ali Rebehi au menu de Grand Bien Vous Fasse, des histoires d'amour, il en faut aussi.
Il ne faut que ça.